Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 1, versets 1 à 6. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Au début d'année, posez la question de quoi on pourrait parler, notamment le sujet, mais l'obéissance, un sujet qui fâche. Vous aimez obéir? Vu les réponses, on a la réponse. Souvent, on regarde les catholiques et on dit « Ah, regarde, c'est des catholiques non pratiquants ». Ça, on aime bien le dire, on le fait même avec un peu de dédain. Mais je suis désolé de le dire, mais je vois aussi des chrétiens non pratiquants. Et de plus en plus, hélas, aujourd'hui. Ou alors des chrétiens qui, dans leur cœur, disent « j'obéis, mais j'obéis qu'à moitié ». Et en ce début d'année, la question peut se poser à chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes vraiment fidèles, obéissants au Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce qu'on l'est qu'à moitié? Est-ce qu'on suit notre volonté? Est-ce qu'on suit sa volonté à lui? Parce que bien souvent, et c'est très bien ce que Robert a introduit tout à l'heure, nous faisons notre propre Dieu. On va voir ça au fur et à mesure. Et on a une définition de ce que Dieu veut pour nous, et surtout ce terme obéissance. J'ai ma définition de l'obéissance à Dieu, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut vraiment. Et donc on va voir un peu ce que Dieu entend très rapidement, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais voir ce que Dieu entend par ce qu'est l'obéissance, et surtout ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Et le début de l'année, c'est une bonne occasion de se dire, allez, on va se bouger un petit peu, parce que on a besoin de se bouger. Dieu veut notre obéissance. Je ne sais pas si vous le saviez. Peut-être pas poser la question un jour. En cherchant une définition, quelqu'un écrivait « L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure, Dieu ou des hommes parfois, reconnue comme autorité. Elle suppose que cette autorité extérieure ait pu clairement communiquer sa volonté. » Je crois que Dieu a clairement communiqué sa volonté. « À ceux dont elle attend l'obéissance. » Dans le cas de Dieu, elle implique 1. La reconnaissance de sa souveraineté. Dieu est souvent souverain pour les autres, mais pas pour le chrétien. 2. La révélation de sa volonté, qui est faite au travers de l'Écriture ou par peut-être d'autres moyens. Et puis 3. La compréhension aussi de cette volonté. Est-ce que Dieu est vraiment mon autorité dans ma vie, ou est-ce que c'est une autorité un peu biaisée, un peu lointaine, que je connais à peine? Est-ce que j'obéis personnellement à Dieu dans tout ce qu'il veut? Le verbe obéir dans l'Ancien et le Nouveau Testament veut aussi dire écouter. Quand j'obéis à Dieu, j'écoute d'abord Dieu. Parce qu'avant de vouloir obéir à quelque chose, il faut d'abord l'écouter. Et quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui écoute Dieu. Mais après, qui met aussi les choses en pratique, évidemment. Dieu, dans la parole, du début à la fin, appelle son peuple à obéir à la voix de Dieu, c'est-à-dire à ce qu'il commande, à ce qu'il dit, pas à ce que nous disons à nous-mêmes. Dieu a donné des instructions. Si vous prenez le temps de lire la Bible, il ne s'agit pas de contempler la Bible, de dire « Ah, elle est belle, il y a belles histoires là-dedans », mais à un moment, il faut aussi obéir à ce qu'on est en train de lire. Alors peut-être qu'on ne comprend pas tout, mais il y a des choses qu'on peut comprendre déjà. Et donc, le Seigneur ne veut pas qu'on contemple simplement la Bible, mais qu'on l'applique aussi, et qu'on obéisse. Paul, au travers de l'Épître aux Romains, ou d'autres apôtres, cherchait à exhorter à l'obéissance. Chacun amené à pratiquer, et pas seulement à écouter, nous dit Jacques. On aime bien écouter la parole de Dieu, mais on n'aime pas la pratiquer. 1 Pierre chapitre 1, verset 2 dit « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On a été sauvés, pour être sauvés, profiter de tout ce qui nous attend, mais aussi pour apprendre à commencer à obéir. Nous sommes élus, pas simplement pour être sauvés, mais pour apprendre à obéir à ce salut. En plus, ce qui est formidable, c'est que, vous savez comme moi, obéir à Dieu, c'est facile. C'est pas facile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mais le Seigneur nous a tout donné aussi pour que nous puissions obéir, justement. Quelqu'un disait, en effet, une réelle obéissance est impossible par les seuls efforts de la volonté humaine. Ça, vous l'avez réalisé. Seule la grâce de Dieu peut nous en rendre capables. À travers du Saint-Esprit, à travers de la présence de Jésus-Christ, qui est là avec nous chaque jour, il peut me rendre capable de lui obéir. Pourquoi accepter le salut si ensuite c'est pour continuer à vivre comme je vivais autrefois dans le monde, ou peut-être à faire ce que moi j'ai envie? Jésus est mort pour moi, il m'a sauvé, et maintenant ce qu'il désire, c'est que je devienne son esclave, c'est-à-dire celui qui lui obéit, et que je ne fasse pas ce que j'ai envie de ma propre vie autrement. Ben, celui qui dit qu'il faut obéir qu'à moitié, il s'appelle le diable. Il s'appelle le diable. Et donc je suis le diable et je ne suis plus en train de suivre Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est un modèle d'obéissance. Dans Romains 5, 19, il est dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus tout simplement justes. » Il y a là un contraste terrible entre l'homme qui pêche une fois et qui balance l'humanité dans le péché, et Jésus-Christ qui est obéissant du début jusqu'à la fin et qui permet à ceux qui l'acceptent d'être sauvés pour l'éternité. Quel contraste entre l'obéissance et la désobéissance et les conséquences qui y sont liées. Jésus a été soumis au Père. Alors vous allez dire, oui, mais c'est Jésus, c'est facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a accepté cette soumission au Père. Il a obéi en toutes choses. Il a voulu faire ce que Dieu voulait. Et il l'a fait, comme dit la Bible en Philippiens 2, 8. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'était pas facile pour lui, puisqu'à Gethsémané, il va avoir un petit temps de réflexion avant d'accepter la coupe. Ça veut dire qu'il y avait un combat, il y avait une lutte au fond de lui-même pour pouvoir continuer à obéir. Et Hébreux chapitre 5, verset 8 dit, en parlant de Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, qu'on dit « Ah, c'est Jésus ». Non, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a dû apprendre à obéir. Ce n'était pas inné, comme nous, on a des fois l'impression de le croire. Bien qu'il fût le fils, il a dû, au travers des souffrances, au travers de la moquerie, et surtout au travers de la croix, apprendre à obéir à son Père, à Dieu. Parce que obéir, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et le Seigneur, à l'instar de Jésus-Christ, veut aussi nous appeler à apprendre à obéir. On ne devient pas chrétien en disant « ça y est, je peux obéir à Dieu tout le temps ». Comme ça ? Non. On se rend compte qu'avec le temps, on a besoin d'apprendre. Ça s'apprend d'obéir à Dieu. Mais il faut le vouloir aussi, parce que Dieu ne va pas nous forcer. Enfin, des fois, il nous fait des petits croche-pattes pour qu'on se réveille, mais on va devoir apprendre à obéir à Dieu. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, il faut être honnête. Mais pour celui qui apprend à obéir à Dieu, va se rendre compte que ça devient agréable ensuite, parce qu'on n'est plus dans le péché, on n'est plus à s'excuser, à avoir des idées dans la tête. Au contraire, on commence à ressembler à ce que Dieu veut pour moi, tout simplement. Et quand on obéit, si on pouvait obéir pleinement à Dieu, sans plus de péché, sans rien, vous seriez comment ? Au ciel. Sur terre, on va dire. On serait bien. Et des fois, on se dit, pourquoi je suis mal ? Parce que peut-être je n'obéis pas au Seigneur. Alors, on voit les grandes choses, mais il y a beaucoup de détails aussi dans la Bible par rapport à l'obéissance. Le fruit de l'obéissance de Jésus, parce qu'il y a un fruit derrière, c'est cet accès possible au ciel pour celui qui se repent. Parce que Jésus a obéi jusqu'au bout, il a souffert terriblement, mais il a voulu obéir au Père. Il savait qu'il y aurait quelque chose pour nous derrière, et c'est ce qui l'a certainement motivé pour que nous puissions nous être sauvés aujourd'hui. Si Jésus avait désobéi, il n'y aurait personne dans cette salle et on est tous partis pour l'enfer. Vous imaginez ? À cause d'un homme, enfin à cause de Jésus, on ne va pas se comparer non plus, mais c'était lié à son obéissance. Et les conséquences sont terrifiantes quand on y réfléchit. Grâce à son obéissance, nous allons partager un jour l'éternité plutôt que l'enfer. Et je crois qu'on peut dire que merci au Seigneur pour cela. Mais notre obéissance en tant que chrétien aussi peut produire du fruit. D'abord pour soi, parce que quand j'obéis à Dieu, je suis en paix, tout simplement. Essayez d'obéir à Dieu, vous allez voir la paix que cela peut produire dans notre vie. Et puis en même temps, c'est bon pour l'entourage, parce que quand j'obéis au Seigneur, forcément, je vais influencer ceux qui sont autour de moi. obligatoirement, si moi je suis en paix et que les autres sont dans leurs états, hein, et par mon amour, par ma paix, par mon pardon, forcément ça a un impact sur les autres autour de moi. Et ça peut être que bénéfique. Autant l'obéissance de Jésus a produit le salut, autant peut-être notre obéissance à Dieu peut produire quelque chose, et pourquoi pas la recherche au moins du salut chez ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans leur vie. On voit aussi dans le Nouveau Testament où les auteurs se réjouissent de voir, par exemple, les chrétiens de Rome qui étaient réputés pour leur obéissance. Est-ce qu'on peut dire qu'Étrichy est réputé pour son obéissance? Je ne sais pas. Tite est heureux aussi de voir les Corinthiens obéir à la parole de Dieu. En fait, non seulement l'obéissance produit quelque chose de bon pour nous, mais en plus, ça réjouit ceux qui observent. C'est formidable. Réjouissez-moi, s'il vous plaît. Ben oui, mais c'est ça qu'il est en train de dire, tout simplement. Réjouissons-nous les uns les autres en nous voyant obéir à la parole de Dieu. Apprenons comme Jésus a dû apprendre à obéir au Père. Oui, c'est difficile, c'est pas impossible. C'est surtout ça qu'il faut retenir, hein. Apprenons à suivre fidèlement le Seigneur, celui qui nous a tout simplement rachetés. Chose qu'on apprend aussi, c'est que Dieu ne veut pas notre désobéissance, hein, forcément l'inverse. Désobéir, si on essaie de chercher, c'est ne pas écouter la voix de l'Éternel. C'est-à-dire ce qu'il dit et ce qu'il veut. Psaume 81, 14 dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Et là, on dit « Amen. Ah, ce peuple pénible qui n'obéit pas, il va faire des idoles, comme on a vu tout à l'heure. Hein. » On va peut-être prendre ce verset pour nous. « Oh, si cette église m'écoutait, si Étrichy marchait dans mes voies. » C'est pas la même chose. Désobéir, c'est ignorer ses commandements. Alors, on connaît plein de commandements. On connaît un peu sa volonté. Je dis un peu parce qu'on ne la connaît pas pleinement, bien souvent. On obéit à ceux qui sont faciles. Mais le Seigneur n'a jamais dit « Tu obéiras seulement à « Tu ne tueras point ». Parce que ça, enfin, normalement, c'est facile. Pas pour tous, mais pour nous. Ou à « Tu ne voleras point ». On est d'accord. Mais il y a énormément d'autres choses que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et quand je n'obéis pas à ces détails, on va dire, qu'il attend de nous, je suis en train de désobéir tout simplement à Dieu. Et quand je désobéis à Dieu, je suis en train de remettre en question tout simplement ce qu'il dit. Satan a dit, mais Dieu a vraiment dit que ? Et moi, dans mon cœur, des fois, je dis, est-ce qu'il faut vraiment venir à l'église régulièrement ? Ah oui ? On se pose la question des fois. Et on en a fait une vérité à un moment parce que c'est devenu une habitude, tout simplement. La Bible dit quoi ? Elle dit qu'il faut venir régulièrement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais nous, on est capable de remettre en question. Est-ce qu'il faut vraiment prier régulièrement ? Quand j'aurai le temps, hein, quand je suis pas fatigué, quand il n'y aura pas d'émission télé. Non, la Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Thessaloniciens 5. Donc vous voyez que même en tant que chrétien, après des années peut-être de vie chrétienne, nous remettons sans cesse en question l'obéissance à Dieu et quelque part nous désobéissons à ce qu'il nous demande. Et désobéir à Dieu, d'après la définition biblique, finalement c'est péché. Quand Adam et Ève ont désobéi en croyant Satan, ils ont péché et on a vu les dégâts que ça a fait. Ça conduit le monde vers la mort. On va se dire mais ça c'est leur désobéissance, c'est la grande désobéissance. Chacune de nos désobéissances a une conséquence. On ne le voit pas aujourd'hui, on le verra peut-être plus tard, ou ça sera en tout cas devant le Seigneur, que ça sera remis devant lui, tout simplement. Chacune de nos désobéissances sont un péché, finalement. La Bible rappelle que l'on peut obéir soit au péché, soit à la justice. Romains chapitre 6, verset 16. Je peux désobéir un peu, beaucoup, mais dans tous les cas, je pêche. Vous pouvez désobéir le tout petit, vous péchez. Je pêche. Le Seigneur ne veut pas que l'on pêche. Et comme on l'a dit, tout ça, ça a forcément des conséquences dans notre vie. Quand je remets en question la parole de Dieu régulièrement, forcément, ça va avoir aussi des conséquences sur ma vie, ma paix, ma façon d'avancer avec le Seigneur et tout ce qui est lié autour. Refuser d'obéir à Dieu, c'est laisser tout simplement une porte ouverte. Et vous savez, Satan, il rôde. Et dès qu'il peut rentrer là, il rentrera. Et après, on se demande pourquoi certains tombent. Pourquoi certains n'avancent pas ? Ben tout simplement parce que cette porte est ouverte par ma propre désobéissance. Parce que je ne veux pas obéir à Dieu, ou du moins je ne veux obéir qu'une partie de ce que Dieu me demande. Mais nous péchons, et finalement le diable est glorifié quelque part. C'est bien triste. Dieu nous laisse sa parole, et dans cette parole, il y a énormément de mauvais exemples. pourrait se demander, mais pourquoi Dieu n'a pas laissé que les bons exemples ? Ben, c'est pour nous servir tout simplement de leçon, pour qu'on apprenne. Hein. On parlait d'Israël tout à l'heure, hein, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à même aujourd'hui, Israël a idolâtré, Israël a désobéi impunément par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Hein. On parlait tout à l'heure de la sortie d'Égypte quand même, hein. 10 choses extraordinaires qui sont accomplies là, mais 10 minutes après, on est déjà oublié. Le Seigneur pouvait nous faire traverser la mer Rouge avec lui, avec eux à l'époque. 10 minutes après, on a oublié. Ah, c'est miraculeux, mais après, hein, la vie reprend. Le peuple refusait d'obéir tout simplement à Dieu. Dans Néhémie 9, 17, il donne peut-être une raison. Ils refusèrent d'obéir et ils se mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. On oublie. Il y a des dimanches, ah Dieu, ouais, il a fait plein de choses pour moi. Lundi, j'ai tout oublié. Qu'est-ce qui s'est passé, dimanche nouveau ? C'est pas comme moi, le pasteur. Ouais, on oublie très vite les choses. Et au moment où on s'est converti, on était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. On allait à l'église, on avait envie d'apprendre, de grandir. Puis 10 ans après, on a oublié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut peut-être pas oublier aussi une chose, c'est que le peuple a désobéi, ok. Mais à un moment, il a été déporté. On ne se moque pas de Dieu non plus. Et vous savez pourquoi ils ont été déportés 70 ans ? C'est chaque sabbat qu'ils ont ignoré de la part de Dieu. Chaque convocation que Dieu avait faite à son peuple et qu'ils ont refusée, à un moment, Dieu a puni. Est-ce qu'il faut mettre ça en parallèle avec notre culte quelque part ? Parce qu'on a l'impression des fois que Dieu s'en fiche qu'on soit là ou pas. C'est complètement faux. La Bible rappelle dans 1 Corinthiens 11 que les anges sont là. Ça veut dire que Dieu est avec nous aussi ce matin. Et Dieu nous invite tous les dimanches matins, toutes les études bibliques, toutes les réunions de prière, et chaque fois qu'on ne vient pas, c'est lui qui est offensé, pas moi. C'est lui. C'est lui qui m'invite, c'est pas moi qui vous invite. C'était que moi, je suis resté dormir ce matin, j'étais fatigué. Mais lui, il nous invite chaque dimanche, chaque jour, peut-être aussi dans notre culte personnel, dans notre lecture de la parole de Dieu. Mais chaque fois qu'on ignore cette invitation, quelque part, on l'offense. Et comment on arrive à ignorer ça ? On tord les choses, on tord les Écritures. Comprenons que désobéir vient de plusieurs choses. D'abord, on l'a vu, une mémoire défaillante. On oublie très vite Dieu, ce qu'il a fait pour moi quand tout va bien. Quand tout va bien, Dieu, c'était une vague notion quelque part. Mais quand tout va mal, alors là, on a besoin de prier, on a besoin des frères, on a besoin de tout. On oublie. Peut-être aussi notre source de désobéissance, c'est nos idoles. On n'a pas d'idoles, on n'a pas fait de veau d'or. Nos idoles, c'est tout ce qui remplace Dieu. On l'a vu vendredi. Tout ce qui remplace Dieu, famille, argent, l'amour peut-être trop exagéré, peut-être pour quelqu'un. Il y a tellement de domaines qui sont des idoles. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui dit, quand Dieu dit quelque chose et que moi je dis le contraire par rapport à ces idoles, finalement, je remplace Dieu. C'est triste. Une autre chose peut-être, la ruse d'un cœur tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus de tout, nous dit la Bible. Qui peut le connaître ? Et quand je me vois, moi, des fois, réfléchir, quand je sais ce que Dieu veut, peut-être par rapport au culte, par rapport à ma vie de sanctification, par rapport à ma vie de prière, d'obéissance, j'arrive d'un coup de balai, par le raisonnement, à tout balayer. Ou à demi-balayer. Et je me dis, non, finalement, Dieu n'a pas besoin, Dieu ne m'a pas dit que j'ai besoin de venir à l'église régulièrement. Il ne m'a pas dit ça. Je peux venir de temps en temps. Je peux prier de temps en temps. Je peux évangéliser de temps en temps. Je peux aimer de temps en temps, je peux pardonner de temps en temps. Dieu n'a jamais dit ça. Ça, c'est mon raisonnement à moi. Et on est tordu, des fois. Et on arrive à se persuader à un moment que Dieu a dit ça. Mais Dieu n'a pas dit cela, forcément. Et puis, il y a le syncrétisme aussi. Parfois, j'arrive à transformer la doctrine de Dieu, quand je la connais à peu près, et puis je la mélange avec ma volonté, ma religiosité, quelque part. Et puis, à un moment, on essaie d'unir les deux, et finalement, on n'est plus pleinement dans la volonté de Dieu, mais on est dans ce que nous avons envie de faire. Alors, il y a les grosses bases, on les connaît, on reste fidèle, on veut dire, à la parole, mais dans la pratique, parce qu'on doit être des chrétiens pratiquants, normalement, et bien finalement, on a quelque chose de complètement biaisé, syncrétique. Et ça, c'est pas ce que Dieu veut, non plus pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut qu'on arrête de désobéir. Arrêtez de croire que notre façon de vivre, il est tout à fait d'accord avec ça. C'est pas vrai. Quand je fais ma vie chrétienne comme j'ai envie, hein, comme avec ces tableaux, Dieu n'est pas d'accord forcément avec ça. Et il faut que j'arrête de m'en persuader. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole ». Il dit « Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça existait déjà à l'époque, les chrétiens qui se disaient « oui, mais... » Parce que nous avons des dieux aussi qui s'appellent l'excuse. Ah, ces dieux-là, on les aime. On a tous des excuses pour venir à l'église, pour marcher avec le Seigneur, pour être transformé par le Seigneur. On a tous des excuses et à un moment, ça devient des dieux, entre guillemets, on pourrait dire. Parce que c'est eux qui sont vénérés et non pas le Seigneur. Et puis parfois, il nous arrive de négocier pour l'étude, la prière, pour un tas de choses que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Vous savez, le Seigneur nous a appelés à croître. Quand vous allez à l'école, c'est pourquoi ? C'est pour apprendre, parce que vous avez besoin d'apprendre. Eh bien, on pourrait dire que l'Église, c'est aussi l'école du chrétien, normalement. Et si moi, je dis non, je n'ai pas besoin d'y aller, alors que le Seigneur me dit que je suis appelé à croître, alors tout de suite, on va dire oui, mais j'y arrive tout seul dans mon coin. C'est complètement faux, complètement faux. On peut grandir légèrement, mais si le Seigneur a créé l'Église, qu'il a laissé l'enseignement, etc., ce n'est pas pour rien. Et j'ai besoin d'aller à l'école, parce qu'à un moment, je n'aurai pas mon BEP, sinon, quelque part, entre guillemets. Mais nous négocions. Et vous savez, chaque fois qu'on négocie, chaque fois qu'on raisonne, le diable... C'est bien, allez-y, continuez comme ça, continuez. Et puis qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des chrétiens fragiles, très fragiles parfois même. Et quand on est fragile, on devient des proies faciles pour le diable. Et on s'étonne une fois qu'on est à terre. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi ça m'est arrivé ? Seigneur, on l'a vu tout à l'heure, a souffert. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Apprenons-nous aussi à souffrir des fois contre nos raisonnements, contre notre fatigue aussi des fois. Parce que la fatigue est souvent une excuse aussi. Moi, je sais qu'on est fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Une belle semaine, j'aimerais bien être dans mon lit ce matin. Mais je suis là. Ah, t'es le pasteur. Non, j'ai le droit de dormir aussi. Bah oui. Contre nos excuses, contre tout ce qu'on peut inventer, mettre en place dans notre cœur pour biaiser tout simplement l'Évangile et la vérité. La Bible nous dit ce que le Seigneur veut. On va lire dans Actes chapitre 2, verset 42-43, en tout cas pour l'Église. Il y a énormément de choses à dire encore, mais Actes chapitre 2, verset 42-43. On peut lire verset 41 déjà. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, donc ça concerne l'Église. Hein. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il manque, ça arrive à être échine. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain et ils persévéraient dans la prière. Voilà ce que l'Église primitive faisait et ce que le Seigneur attendait. D'abord, de la persévérance. C'est dur de persévérer, mais cette persévérance, je crois, elle est liée à la crainte de Dieu. Parce que le texte disait aussi qu'il craignait Dieu. Et si je crains vraiment Dieu, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de persévérer, j'ai envie de devenir obéissant. Et ces quatre piliers, on pourrait dire, qui nous aident dans notre croissance spirituelle, c'est l'enseignement, et là on est dans le contexte de l'Église, pas le contexte de ma chambre, c'est l'Église. Et c'est à l'Église qu'on est enseigné. J'apprends des choses avec le Seigneur, mais j'apprends aussi à l'Église, et c'est là où Dieu me veut pour croître spirituellement. De Pierre, chapitre 3, 18, dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Hébreux 5, 12 dit « Vous, en effet, depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Est-ce que j'ai vraiment soif de Dieu ? Comprendre plus ? Parce que comprendre plus, forcément, c'est un impact sur ma vie, sur la qualité de ma vie spirituelle et sur la force que cela veut me donner. Ou est-ce que je suis au lait et puis je me contenterai jusqu'à la fin de ma vie ? C'est pas ce que Dieu veut. Ça, c'est moi qui biaise encore la volonté de Dieu. Donc le Seigneur veut qu'on persévère dans cet enseignement. Dans la communion fraternelle. Ah, la communion fraternelle. C'est formidable de pouvoir se réunir. Il n'y a pas que le dimanche, hein, on peut avoir la communion fraternelle. Mais c'est formidable d'avoir des frères, des sœurs sur lesquels je peux compter. Pas des frères avec lesquels j'ai de l'amertume, la tristesse, du dédain, peut-être même parfois pour certains, un manque de pardon. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres ». Quoi ? Oh. « Supportez-vous les uns les autres ». Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, alors va voir le pasteur et va lui dire. Non, il dit « pardonnez-vous réciproquement. Alors, compliqué cette Bible des fois, hein. Alors déjà là, on commence à raisonner, parce que chacun raisonne en ce moment dans sa tête, certainement, et on va essayer de biaiser ça. Pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Quand on vous embête, quand on se fait du tort les uns les autres, ça arrivera. C'est pas garder l'amertume, c'est se pardonner les uns les autres. Comme Christ me pardonne, sinon Christ ne me pardonnera pas. Eh oui, ça marche comme ça. Troisième pilier, on pourrait dire, qui nous fait grandir, c'est la scène. Alors, vous avez la scène, oui, parce que chaque fois qu'on prend la scène, enfin, techniquement parlant, il y a un examen, et c'est une bonne remise en question, normalement, ce serait bien de le faire aussi au début d'année, et si je me remets en question, forcément, ça aboutit sur la repentance, parce qu'on a toujours besoin de demander pardon au Seigneur, et quand je vais vers la repentance, ça me donne envie d'obéir au Seigneur, et donc forcément, d'avancer avec lui, et c'est utile dans ma vie. Et puis la quatrième chose, la prière, on est toujours là dans le contexte de l'Église, c'est pas prier chez soi, il y a d'autres textes qui le disent, mais là on parle de prier ensemble, lutter ensemble, pas chez soi, lutter ensemble. Et peut-être qu'il y a plein de défis en France qui vont arriver par rapport aux églises, hein. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt, mais on a besoin de lutter ensemble. Et c'est ça qui fera la force de l'Église, c'est ce qui fera aussi notre force à nous en tant que chrétiens. Voilà quatre choses que le Seigneur demande aux chrétiens à vivre ensemble. J'insiste sur le mot « ensemble ». Comprenant que notre désobéissance, je suis désolé de le dire, mais déshonore clairement le Seigneur Jésus-Christ qui nous aime tellement et qui a donné sa vie pour nous. Et il faut s'en souvenir, pas simplement l'entendre, mais le comprendre aussi peut-être. Une troisième chose que nous apprend ce texte, c'est que Dieu a formulé sa volonté. Alors là, je pourrais passer des heures, si vous voulez, vous savez à peu près tout, mais globalement, ce que Dieu veut pour notre obéissance, c'est d'obéir à la foi. On l'a vu tout à l'heure. Paul voulait amener à l'obéissance de la foi les païens et tout le monde, évidemment. La foi étant l'obéissance de la conscience, l'obéissance du cœur et de notre volonté, pas à nous, mais à Dieu. Quand j'obéis à Dieu, c'est autant ma conscience, parce que ma conscience est travaillée, forcément, c'est autant mon cœur qui veut obéir à Dieu, et autant ma volonté qui doit être soumise à Dieu. Et ça, c'est un sacré travail pour être vraiment obéissant. Et la Bible nous dit qu'il s'agit d'obéir en parole. Je suis chrétien, j'aime le Seigneur Jésus-Christ, c'est très bien. Et en œuvre, il s'agit de le voir. Il s'agit de le mettre en pratique, parce qu'être chrétien, c'est pas simplement de le dire, c'est le voir. Et le voir dans toute la vie. Matthieu parle d'un verset qui dit, non je ne l'ai pas noté, j'ai dû oublier, mais en tout cas il dit, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, on se donne bonne conscience, n'ai-je pas fait ça pour toi, n'ai-je pas donné ma vie pour toi? Et ce qui est curieux, c'est que Jésus va dire que ceux qui ne font pas sa volonté, il ne les connaît pas. C'est dur comme parole. Mais on peut dire Seigneur, Seigneur, on peut se croire chrétien, et finalement, un jour le Seigneur dira, mais ce que je te demande, ce n'est pas de dire que tu m'aimes, mais de me le montrer, de pratiquer et de mettre en marche cette foi, tout simplement. Ce manque d'obéissance peut aussi venir d'une autre chose, peut-être. On n'est pas né de nouveau. Oui. Il y a souvent des chrétiens, enfin, qui croient être chrétiens dans l'Église et qui n'obéissent pas, et puis on s'étonne pourquoi ils n'avancent pas, etc. Peut-être qu'ils sont simplement religieux ou pas nés de nouveau, tout simplement. Il y a beaucoup de cas. Mais l'amour pour Dieu, ça se voit dans le comportement, dans la fidélité, dans la croissance spirituelle que l'on a avec lui, et au bout, finalement, dans l'obéissance qu'on a envers sa parole. Obéir à la vérité, c'est-à-dire à l'Évangile, dans 2 Corinthiens 9, 13, il dit « En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. » Le Seigneur nous appelle à obéir à la vérité, et nous savons que la vérité est la parole de Dieu. Dans Galates, l'apôtre Paul s'étonne un moment en disant « Mais vous courriez bien, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ?» Les chrétiens, au début, dans leur nouvelle naissance, quand ils connaissent le Seigneur, « Qu'est-ce qu'on court ? Seigneur, gloire à Dieu !» Et à un moment, on se laisse aller. Pourquoi ? Paul s'étonne. Bon, dans le contexte, c'est évidemment parce qu'il y avait les Juifs qui étaient là en train de les embêter. Mais qu'est-ce qui nous a arrêtés dans notre course pour le Seigneur ? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, réfléchissez aussi. Cela démontre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, à un moment, vont s'arrêter de courir, peut-être passer par des moments où est au bar, mais vous savez, c'est tout simplement parce qu'on obéit à moitié au Seigneur. Tout simplement. Après, il y a les épreuves de la vie, on est bien d'accord. Mais si ma vie spirituelle fait ça, c'est certainement parce que je n'obéis qu'à la moitié de ce que le Seigneur veut dans ma vie. Je biaise la vérité et je n'obéis plus quelque part à l'évangile de Jésus-Christ. La Bible nous appelle à obéir, on a vu plusieurs textes ce matin. Pas à ignorer, pas à déformer, mais à obéir. C'est un effort de déformer. Ah, il en faut de la logique hein, pour se dire que « Ah non, mais Dieu ne veut pas vraiment ça en entier. » On dit « Oui, Dieu est d'accord, mais t'es sûr hein ?» Parce que ça m'embête, parce que ça me coûte de devoir le faire. Hein. Mais alors, on arrive à biaiser. Mais vous savez, le temps qu'on prend par la logique, par le raisonnement, pour mentir finalement au bout, c'est bête plutôt que d'obéir. Non, c'est le même effort quelque part. C'est le même effort. Mais par contre, dans un sens, vous faites du mal, dans l'autre, vous faites plaisir à Dieu et à vous-même, quelque part. Donc autant faire l'effort d'obéir à Dieu. La Bible nous dit d'obéir à Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 2, 21, il dit « Et c'est à cela que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous vous reposiez... afin que vous suiviez ses traces. » Je reprends. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. On doit faire comme lui. On n'aura pas à vivre la même chose que lui, mais dans cette obéissance, nous sommes appelés à suivre ses traces. Dieu nous appelle à obéir comme le Fils, à suivre ce que lui a fait en tant que modèle. Nous sommes sauvés, pas simplement pour profiter du salut, mais pour suivre cet exemple. Ce n'est pas une proposition que le Seigneur fait dans ce texte. C'est un ordre qu'il nous donne que d'obéir et de suivre les traces du Seigneur. Paul voulait amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà le désir qu'il avait au fond, que tous se mettent à obéir. Alors oui, dans l'obéissance, il faut apprendre, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est que chaque chrétien ait envie de se mettre en marche dans cette obéissance. Et ça devait être certainement le grand désir de Paul de voir tous les chrétiens se mettre à marcher avec le Seigneur. Et certainement, pour lui, il savait qu'il fallait se débarrasser de tous les mensonges que nous avons dans notre cœur pour ne pas obéir tout simplement au Seigneur. Celui qui obéit à Dieu, ben, il est bien, il est heureux, il est en paix. Celui qui biaise la vérité est malheureux et ne profite pas pleinement de ce que Jésus-Christ veut pour lui dans sa vie. On passe à côté de plein de choses, et c'est bien triste, quelque part. Dans 1 Samuel 15, 22, Dieu dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » À l'époque, il faisait plein de sacrifices, hein, parce que la loi de le demander, et on pensait que Dieu était content. Dieu s'en fiche de ça. Alors, il a demandé de le faire, il fallait le faire, mais pour lui, ce qui était plus important, c'est que les enfants obéissent. Voilà le sacrifice que Dieu veut réellement. Et c'est un sacrifice parfois d'obéir à Dieu. Mais il s'en fiche que l'on paraisse chrétien, qu'on dise qu'on est chrétien, qu'on va à l'église, qu'on lit la Bible. Il s'en fiche de tout ça. Il a demandé de le faire de toute façon, donc ce n'est pas à nous de lui dire qu'on le fait. Mais ce qu'il veut, c'est justement qu'on obéisse, pas qu'on paraisse. Dieu veut des actes concrets. Il veut un cœur qui est prêt à le suivre. Il veut un cœur qui est prêt à lui obéir. Il veut des modèles, finalement, au bout. Parce que si on se met à obéir vraiment, on devient à notre tour des modèles. Et ces modèles sont en parole et en acte. Et par ces modèles, ben d'autres vont peut-être être conduits tout simplement à obéir d'abord au salut, à accepter le salut, et ensuite à devenir des disciples de Jésus-Christ. Cessons de nous voiler la face. C'est 2019, premier, dans les débuts de l'année. On a peut-être des bonnes résolutions dans notre cœur. La meilleure des résolutions, c'est d'arrêter de nous voiler la face, parce qu'on le fait. Mais de commencer à se dire, ça serait bien que je me mette à obéir à Dieu, à toute sa volonté, pas à la moitié de sa volonté ou à celle qui m'arrange, mais à toute sa volonté. Et là, on a 365 jours devant nous, il y a du boulot. Alors évidemment, la volonté de Dieu, je ne la connais pas en entier, ben, je vais commencer à lire la Bible. Avec le défi peut-être qu'à la fin de l'année, je l'ai lu en entier une fois. Il y en a qui me regardent comme ça. C'est possible, hein. Il suffit de vouloir. On est prêt à prendre le temps pour d'autres choses qui ne sont pas importantes du tout. Mais ça, c'est extrêmement important pour moi et pour ma vie spirituelle. À nous de choisir à un moment. Mais pourquoi pas. Pour terminer, la Bible dit que ceux qui obéissent au commandement de Jésus, hein, c'est dans Jean, ce sont les amis de Jésus-Christ. Vous voulez être amis de Jésus-Christ ? Oui, n'allez pas si vite en me disant oui. Alors, il s'agit d'obéir. Si j'obéis à moitié, je ne suis pas ami de Jésus-Christ. Si j'obéis à trois quarts, je ne suis pas ami de Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas être obéissant à 100%, mais l'intention du cœur, je pense, c'est celle-là qui est là. L'intention du cœur, c'est de vouloir vraiment obéir au maximum. Et le Seigneur sait que j'ai besoin d'apprendre. Mais si cette intention est là, alors le Seigneur m'appelle ami. Mais si je biaise la vérité, si je biaise l'évangile, si je range les choses à ma sauce, alors je ne suis pas l'ami de Jésus-Christ. Et ça, c'est bien triste, quelque part. Oh, Dieu est patient avec nous, heureusement. Mais comme on a vu pour Israël, la patience a des limites. Quand on se moque de Dieu, à un moment, il nous reprendra parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses enfants. Hélas, nous vivons bien souvent comme si Dieu était d'accord avec notre façon de vivre. Peut-être qu'on se voit chrétien, on vit d'une certaine manière, chacun se connaît, et on se dit « Dieu est d'accord ». Non. Non. Même si on était bien obéissant, peut-être que Dieu attend encore autre chose de chacun d'entre nous. Et Dieu n'est pas d'accord. Et là, il faut arrêter de se mentir en disant, en faisant notre idole, notre veau d'or, qui dit « Je suis d'accord avec toi dans ta façon de vivre, ta vie chrétienne ». C'est complètement faux. Et ça, il faut que ça percute notre cœur peut-être un jour, parce que c'est ça qui va peut-être déclencher notre vie de sanctification et de transformation que le Seigneur veut pour nous. Vous savez, cette obéissance, à un moment, on peut peut-être dire « Oh, c'est pas grave aujourd'hui », mais quand Jésus-Christ sera devant nous, au tribunal de Christ, et qu'il commencera à prononcer toutes les désobéissances que nous avons eues vis-à-vis de lui, j'ai peur, moi, franchement. Mais quand on sera devant lui, là, raisonnement, excuse, mensonge, vous les jeter. C'est Jésus que vous avez en face de vous, c'est pas un homme. C'est pas mon cœur, c'est Jésus-Christ. Et là, il n'y aura pas d'excuse. Récompense, pas de récompense, petite récompense, je ne sais pas, pour chacun d'entre nous. Mais là, on ne pourra plus mentir. Peut-être que ça serait bien de se dire que, déjà aujourd'hui sur la terre, Jésus, il est vivant, non ? Il me semble, hein ? Mais il est vivant loin, très loin, puisque je peux en faire ce que j'ai envie. Mais peut-être si on prenait chaque jour acte qu'un jour je serai en face de lui et que je devrais, là, dire... Toute ma vie, étaler ma vie, ce que j'ai fait de bien et de mal, étant dans cette vie, ça va me faire rougir. Alors commençons à rougir peut-être aujourd'hui, et puis changeons peut-être nos habitudes pour commencer à devenir obéissants. La Bible dit que les conducteurs de l'Église, donc les pasteurs, les anciens, sont appelés à veiller sur vos âmes. C'est mon boulot. Pas bien payé, mais bon. Je rigole. Mais au fond de mon cœur, c'est vrai, je suis là pour appeler... est appelé pour veiller sur vos âmes parce qu'un jour, je dois en répondre. Et donc forcément, il faut dire les choses aussi à un moment, clairement. Et arrêter peut-être de jouer l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite généralement, mais parfois, il ne faut pas être hypocrite et il faut dire les choses clairement. On a beaucoup de choses à apprendre dans cette Église. Moi, le premier, évidemment, mais chacun d'entre nous. Hein. Ne soyons pas hypocrites. Et comme le président, j'ai des vœux pour cette Église. Je m'appelle Emmanuel, j'ai le droit. Il y aurait beaucoup de vœux, évidemment, mais je pense qu'on va souhaiter la bonne année. Moi, j'ai envie de dire une bonne année passe par l'obéissance. Là, vous pouvez sortir fin 2019, si vous avez été obéissant au Seigneur, votre année a été bonne. Difficulté, on s'en fiche, elle a été bonne. Première chose que je souhaite, évidemment, c'est qu'on aime vraiment Dieu. Alors, on aime Dieu. Oui, on aime Dieu. Mais on a vu que aimer vraiment Dieu, c'est obéir à Dieu dans tous les domaines qu'il nous demande. Ça, c'est vraiment aimer Dieu. Deuxième chose que je souhaite pour moi, mais pour l'Église évidemment, c'est qu'on grandisse spirituellement. Et on l'a vu, je ne peux pas grandir spirituellement chez moi. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, j'aimerais bien vous le dire, mais la Bible dit le contraire. Et c'est à l'Église que ça se passe, à sa fréquentation de l'Église. C'est le temps qu'on va passer ensemble à apprendre, à prier. C'est comme cela qu'on va grandir. Évidemment, il faut prier chez soi. Évidemment, il faut lire la Bible. Mais la croissance se fait dans l'Église. Troisième chose que je souhaite, c'est qu'on apprenne à prier. Pas nos petites prières qu'on fait rapidement. Au culte, on entend peu de voix. On est timide, je sais. Allez-y, personne ne vous sautera dessus. Faites comme vous avez envie. Parlez à Dieu, vous ne parlez pas aux gens. Quand vous êtes dans votre chambre à prier Dieu, vous faites comment ? En poésie ? Vous lui parlez simplement. Parlons simplement le dimanche matin. Et puis, réunissons-nous le plus souvent possible pour combattre ensemble. Peut-être que vous ne pouvez pas venir le vendredi ou le mardi. Ok, Mais pourquoi vous ne viendrez pas me dire à un moment pourquoi on n'irait pas le samedi, pourquoi on ne ferait pas ça ensemble ? On n'a pas besoin d'être formel tout le temps. On peut lutter de mille et une manières, parce que le Seigneur nous a dit « veillez et priez ». Les disciples qui étaient à Gethsémané et qui ne priaient pas, qui ne veillaient pas, et ben dès que l'épreuve est arrivée, taïo, tout le monde est parti. Si demain on nous demande de fermer l'église et vous irez en prison, si vous venez à l'église, qu'est-ce que vous faites ? Taïo, tout simplement. Parce qu'on est, on n'est pas prêt à ce genre de choses-là. Quatrième chose que je souhaite, c'est apprendre à aimer autrui, à s'aimer les uns les autres comme Jésus m'aime. Pas à aimer l'autre comme moi j'ai envie de l'aimer. Il faut que je me souvienne tous les jours comment Jésus m'aime profondément. Il est mort pour moi. Ça veut dire que je suis prêt à mourir au moins dans mon cœur par rapport aux pardons qui ne sont pas donnés, à l'amertume qui est là. Je suis prêt à mourir là-dedans pour aimer mon prochain. Pas à nous éviter, pas à nous éloigner les uns des autres, mais à nous pardonner, à couvrir la faute. C'est formidable ça. Couvrir la faute que quelqu'un a fait, pas la raconter, mais la couvrir, comme Dieu le fait tous les jours pour moi. C'est formidable. Vous imaginez si Dieu disait tous mes péchés ? Je serais mal. On serait mal. Mais le Seigneur, parce qu'on lui demande pardon, couvre et oublie totalement ce péché. Cinquième chose, il n'y en a pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas faire 16 minutes comme M. Macron. Cessons d'inventer notre évangile. Et ça, je n'ai pas envie de le dire que dans notre Église, mais dans ce monde. Cessons d'inventer l'Évangile. L'Évangile, il est clair, il est donné, à nous de le connaître, à nous de ne plus le biaiser par nos idoles, par nos excuses, à bricoler toujours la volonté de Dieu. On la connaît, à nous, tout simplement, de la mettre en pratique et de lui obéir. Sixième chose, ayons un cœur vrai, un vrai cœur se repent. Il devrait se repentir après. Après tous les dimanches même peut-être, tous les jours, pour être pardonné de nos excuses, de tout ce qu'on, des fois on s'imagine dans la tête, croyant venir de Dieu, qui n'est pas forcément de Dieu. Et quand on fait cela, on va commencer à se mettre à obéir. Pas avant. Je ne peux pas me mettre à obéir si je n'ai pas réalisé que je suis désobéissant. Ce n'est pas possible autrement. Et c'est ça le cœur vrai. On est tous désobéissants. Je suis le premier. Paul dira lui-même qu'il était le pire des pécheurs. Mais il avait conscience de ça. Et c'est parce qu'il en avait conscience qu'il demandait pardon régulièrement et qu'il pouvait avancer. Hein? On n'est pas parfait, il n'était pas parfait. Mais il faut en avoir conscience et il voulait un cœur vrai. C'est notre obéissance fidèle qui va glorifier le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on vient le dimanche matin, j'ai fait l'effort, je me suis levé, je suis là. Oui, Dieu est content. Il nous invite d'ailleurs. Mais je crois que le Seigneur est le plus heureux qu'on est obéissant dans tous les domaines de notre vie. Bonne année. Je ne vais pas dire vive la France parce que ce n'est pas ça. Et plutôt bonne obéissance à notre Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ. Et je terminerai avec ce verset de 2 Pierre 3,18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci pour cette nouvelle année que tu mets devant nous. Nous avons évidemment plein de résolutions peut-être dans notre cœur, mais pas forcément celui de t'obéir. Seigneur, que nous puissions repartir avec cette bonne résolution, cette résolution qui est finalement la meilleure, je crois, pour chacun d'entre nous, qui aura forcément un impact sur les résolutions que nous voulons avoir nous-mêmes. Mais Seigneur, apprends-nous à devenir obéissants. Apprends-nous à arrêter de nous excuser, à mentir, Seigneur, à baiser ta parole, à aller vers ces idoles qui finalement nous éloignent de toi. Apprends-nous à obéir parce que nous voulons te faire plaisir, parce que finalement c'est complètement utile pour moi-même. Cela me fera du bien autour de moi aussi, Seigneur, poussera peut-être même d'autres à te connaître, Seigneur. Oui, Jésus-Christ a dû apprendre l'obéissance par la souffrance, et nous-mêmes, Seigneur, nous sommes loin d'être Jésus-Christ et nous avons besoin d'apprendre. Tu es bon parce que tu ne permets pas toujours la souffrance, mais tu le feras s'il faut pour que nous puissions avancer. Apprends-nous à souffrir, oui, peut-être parfois, pour se forcer peut-être là où des fois on se laisse aller, là où on est fatigué. Donne-nous les forces, Seigneur, pour avancer. Mais nous voulons tout simplement te faire plaisir. Prions pour cette Église, Seigneur, qu'elle soit à ta gloire dans tous ces domaines et que toi, tu sois tout simplement heureux de voir cette Église avancer. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.